tiens, le One Man.
Ah bah tiens.
Ben oui, le truc que je dis toujours, moi j'aime les valeurs de One Man. Bon, on va en parler puisque, évidemment, BFM Bourse, c'est l'émission où on tord le cou, on met des grandes baffes aux idées reçues. Vous savez ?
Oui, je sais.
Et il y a une rubrique qui s'appelle le Bullshito.
Ah bon ?
Oui, voilà.
Ah, je découvre.
Où justement, on va aller à l'encontre des clichés de marché et en particulier un qui me concerne puisque j'arrête pas d'en parler. Oui, là, quand on choisit une valeur, il faut obligatoirement choisir une valeur de One Man.
Je plains les oreilles de vos chers auditeurs.
Et nous sommes avec Julien Letestu de Jaxt Finance qui va nous dire, bah non, bullshit.
Bonjour à vous, bonjour Antoine.
Julien Letestu, il a tout pris en même temps, il a décroché le téléphone, il y a eu l'orage. Bon, c'était fabuleux. Mais oui, vous nous dites... Ouais, bon, c'est le rendement, le coupon, le dividende, c'est bien, ça fidélise l'actionnaire, mais c'est pas ça qui doit déterminer fondamentalement le choix d'une action ou d'un truc qui vous plaît.
Bien sûr, en tout cas, moi je parle ici du haut rendement, puisque le haut rendement peut dire plein de choses à la fois, et souvent il y a plusieurs pièges à éviter, notamment avec ces actions de haut rendement, comme vous appelez de rendement. Notamment un cours qui peut s'être lourdement dégradé récemment, et vous savez que le rendement est calculé sur le dividende par action, face au cours de l'action. Donc, je prends l'exemple de Novo Nordisk, par exemple, qui affiche un rendement de 5 à 6%. En réalité, au sommet, on était plus autour de 2. Mais ça peut aussi dire un gros rendement, une entreprise qui a besoin d'attirer des actionnaires et qui se sent un petit peu en difficulté, donc qui continue à l'augmenter, qui continue à distribuer un maximum de cash et qui, au final, ne pourra pas continuer ce rendement. Une autre possibilité aussi, c'est une très forte distribution qu'on peut voir dans d'autres groupes qui vont potentiellement pouvoir même réduire la croissance mécaniquement, puisque quand on distribue tout son cash, au final, il ne reste plus rien dans la machine. Et ce n'est peut-être pas la manière de fonctionner. En tout cas, il ne faut pas tomber dans tous ces pièges.
Bon, cela dit, il y a des cas de figure. Le rendement, ce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. C'est-à-dire qu'on est sur aussi des problématiques de croissance du rendement via le dividende, via... Le rendement, c'est un certain nombre de paramètres. Mais on voit, par exemple, on peut choisir une entreprise qui a un rendement relativement faible parce qu'elle a plus des qualités de dynamique de croissance. Et puis, elle peut provoquer des grands rendements à certains moments. Et comment la mécanique se fait ? Expliquez-nous.
C'est ça, et c'est surtout là où je voulais en venir. Pour les personnes qui ont un horizon de temps vraiment long, il y a un rendement qui est très intéressant, c'est celui qu'on va appeler le rendement sur coût. Mécaniquement, ce rendement, quand on va l'acheter au tout début, on peut prendre l'exemple, l'action chouchou des Français, Air Liquide, qui est un rendement qui est croissant, c'est-à-dire qui va augmenter chaque année, avec une distribution qui n'est pas abusive et qui est franchement gérable, et surtout qui peut être augmentée chaque année, même dans les années un petit peu plus compliquées. Et justement, ce rendement sur coût qui va venir s'appliquer, c'est le rendement sur le coût d'achat. Donc, sur plusieurs années, par exemple sur Air Liquide, quand vous avez 7% d'augmentation en moyenne par an du dividende sur les 30 dernières années, eh bien, c'est 7% par an. En réalité, ça double votre rendement sur coût en à peine 10 ans. Donc, plus l'horizon de temps est efficace, plus l'horizon de temps est long, plus on peut augmenter justement ce rendement sur coût qui va venir potentiellement booster des actions de croissance. Et on a des très bons élèves en la matière.
Alors, mais c'est intéressant, parce que ça veut dire que ce qui est important, c'est pas le rendement à un instant T, c'est l'historique de redistribution, si on regarde sur la longueur.
C'est ça. L'historique, non seulement, mais aussi la croissance véritablement de ce rendement qui va donner sur le coût d'achat quelque chose de très intéressant. Par exemple, si on prend les dividendes d'Aristocrate, je sais bien que vous connaissez, chers auditeurs et cher Antoine et chère Sabrina, mais ces dividendes d'Aristocrate, qui ont même des ETF maintenant qui sont backés dessus, sont des entreprises du coup qui augmentent leur rendement chaque année depuis 60 ans pour des bons clients comme Johnson & Johnson, Pepsi, etc. et qui sont donc bien réputées pour ça et qui permettent, en étant des actions de père de famille, de profiter d'un rendement, mais de profiter aussi d'une croissance certes un petit peu plus légère pour les dividendes aristocrates, mais certains acteurs, encore une fois, viennent accélérer tout ça avec un autre mécanisme et surtout ont une grosse croissance de ce dividende-là.
Alors Julien, vous avez parlé d'un autre mécanisme, alors c'est lequel qui permet de maximiser le retour aux actionnaires sans pour autant pénaliser, peser sur la structure de l'entreprise?
Oui, c'est le mécanisme des rachats d'actions. J'appelle ça des actions carnivores, et on appelle ça globalement des actions carnivores, c'est-à-dire des actions qui vont venir manger leurs propres actions. C'est-à-dire que mécaniquement, le prix de l'action va monter, puisqu'on sait que le prix de l'action est calculé via la capitalisation boursière divisée par le nombre d'actions en circulation. Mais s'il y a moins d'actions en circulation, mécaniquement, le prix va monter. Et il y a des actions comme Booking, par exemple, qui, dans les 5 à 10 dernières années, ont racheté jusqu'à 15% de leurs actions au flottant d'il y a 15 ans. Maintenant, il y en a qui en rachètent jusqu'à 1-2% en plus de verser des dividendes. Et ça crée, en plus d'un rendement sur coût qui va progresser, un deuxième effet qui se coule avec justement des actions qui vont disparaître, entre guillemets, et mécaniquement ne plus être échangeables, et donc monter le cours de l'action, et ça, c'est encore mieux.
Julien Letestu, il nous reste une minute. Du coup, comment on doit s'y prendre sur le terrain pour appliquer cette stratégie ?
Alors, il faut être très rigoureux au niveau de la sélection. Il n'y a pas énormément d'entreprises qui peuvent se permettre de chaque année augmenter leur rendement et aussi de pouvoir acheter leurs actions. Alors, le rachat d'actions, c'est vraiment du bonus, mais vraiment pour le dividende croissance, on se base sur ça. Le but étant de chercher des entreprises qui ont un historique, un dividende qui croît depuis plusieurs années, un dividende qui a une croissance au-delà de 5, 6, 7% par an, ça devient très intéressant, et surtout des entreprises qui n'ont pas une distribution de free cash flow énormissime, puisque le cash, il faut en générer pour pouvoir assumer cette stratégie derrière. Donc, pas de cash, pas d'augmentation de dividende, aussi simple que ça. Donc, il faut chercher des entreprises vraiment qui génèrent beaucoup d'argent et qui ont un historique, et le rachat d'actions, ça vient en bonus, c'est la cerise sur le gâteau.
Julien Letestu, alias Jax Finance, merci d'avoir été avec nous. C'était très clair sur cette problématique des valeurs du rendement.